France Culture. Les nuits de France Culture.
Que reste-t-il des vieux mythes, des vieilles croyances dans les sociétés contemporaines ? A priori, pas grand-chose, ou alors des traces de coutumes anciennes devenues folklore dans le meilleur des cas, quand elles n'ont pas simplement disparu. Mais les choses sont parfois plus complexes. Prenez l'exemple du soleil. On vénérait autrefois l'astre du jour, source de toute chaleur et de toute vie en ce monde. On l'honorait et on le célébrait en dansant ou en chantant. Au début des années 80 du siècle dernier, ces pratiques ont depuis longtemps été reléguées au rayon des antiquités. Mais la fascination pour le soleil demeure à mesure que la science nous éclaire sur son origine et son histoire dans le cosmos, sa structure, les ressorts de son rayonnement. Cette fascination demeurée intacte est le point de départ de l'équipe des après-midi de France Culture dans l'émission que voici, émission consacrée aux nouvelles célébrations du soleil. Avec une voix bien connue des auditeurs de France Culture, celle du folkloriste Claude Guaignebé. De l'ombre des anciennes célébrations à la magie de l'expérience solaire dans l'œil des peintres, en passant par les promesses de la science pour éclairer notre quotidien, toutes les variations de notre rapport au soleil sont dans ce programme, diffusé pour la première fois sur France Culture le 7 mai 1981.
Au magasin des nouveautés, les nouvelles célébrations du soleil.
Moi j'ai fait deux soleils.
La maison du soleil.
Les créneaux.
Dans les nuages.
Dans les nuages.
Il y a quelqu'un qui m'a dit que lorsque le soleil se couchait, c'était tout rouge. Ça veut dire que sa maison est rouge ?
Ouais.
Ou sa chambre est rouge ?
C'est sa chambre, elle est rouge. Sa maison, les blanches.
Je crois que, étant donné que ce sont des petits-enfants qui ont pour la plupart à peine 4 ans, pour l'instant, le soleil, comme tout le reste de la nature, devient un personnage qu'ils animent selon leur propre vie. C'est-à-dire qu'ils pensent en général que les animaux et le soleil, la lune, etc., sont des personnages animés. Donc, pour eux, le soleil, c'est quelqu'un qui vit dans le ciel, mais qui se couche, qui a une maison, qui mange et qui a à peu près la même vie qu'eux. C'est quelque chose à leur âge qu'ils font en complément, qu'ils font plus tard, parce que les enfants commencent toujours par d'abord se dessiner eux-mêmes, c'est-à-dire dessiner un bonhomme. Et plus ils grandissent, plus ils prennent conscience du reste de l'univers, et seulement à ce moment-là, ils commencent à faire le soleil. Mais il y a un âge où ils s'y intéressent beaucoup, vers 4 ans, ils commencent à s'intéresser un peu à autre chose qu'à eux-mêmes, et là, ils commencent à faire des soleils. Mais ils font toujours des soleils avec un rond et des rayons, mais je crois que c'est essentiellement parce que c'est comme ça qu'il est toujours représenté dans les livres, dans les bandes dessinées, etc. Et c'est peut-être pas quelque chose de spontané en eux, ça on peut pas très très bien savoir.
C'est peut-être parce que le soleil, tout comme la mort, ne peut se regarder fixement que pendant très longtemps, depuis toujours peut-être, les hommes ont adopté à son égard des comportements essentiellement propres à conjurer leur propre peur. Adoration, célébration, allégeance totale à ce que Cyrano de Bergerac appelait le feu radical. Mais aujourd'hui, si le soleil affirme plus que jamais sa puissance et son omniprésence, il est avant tout cette force fabuleuse à apprivoiser, peut-être d'ailleurs le plus extraordinaire matériau de substitution jamais envisagé pour la vie, sinon pour la survie de l'espèce humaine. Où est le grand clivage ? On nous le dira. On nous dira les grandes conquêtes, les grands projets. Mais on nous dira aussi ce qu'il subsiste de très lointain et de très ancien dans les rites solaires, et sous quelle forme. On nous dira ce que fut et ce qu'est aujourd'hui le soleil des peintres, et puis des enfants nous raconteront, comme ils ont commencé de le faire, le soleil. Mais tout d'abord, un point d'histoire pour expliquer les sources des grandes fêtes solaires et le sens de leur quasi-disparition, avec un homme qui a beaucoup voyagé à travers les mythes, les rites, les légendes et les réalités du soleil, qui a suivi beaucoup des itinéraires dans la mémoire pour l'inscrire dans notre présent. Cet homme, c'est Claude Guaignebé. Il est interrogé par Simone Maury.
Depuis les tout premiers siècles du christianisme, depuis le IVe siècle en gros, les pères de l'Église estimaient que les grandes dates du calendrier, c'est-à-dire solstice et équinoxe, n'avaient été comprises ou prophétisées ou expliquées, disons, qu'à partir de la naissance du Christ. Et on a des traités très curieux des premiers siècles où l'on justifie le fait que les grands axes du calendrier chrétien, c'est-à-dire Noël, Saint-Jean, les deux solstices, Annonciation et, disons, ce qu'on pourrait appeler l'Annonciation de Jean-Baptiste, les deux équinoxes, équinoxe de printemps, équinoxe d'automne, étaient en quelque sorte inscrits à la fois dans la nature et dans l'histoire du Christ. Alors, c'est quelque chose qui s'est maintenu suffisamment longtemps pour que des fêtes comme la fête de Saint-Jean, par exemple, qui n'a peu d'origine chrétienne, disons, pendant longtemps, on ait estimé qu'il fallait la justifier par un certain nombre de textes des évangiles. Donc l'Église, disons, a fait le travail de mettre en correspondance l'homme et les saisons. J'ai l'impression que la récupération de ces temps abandonnés, puisqu'au fond c'est de ça qu'il s'agit, c'est des temps sacrés, des temps forts de l'année, qui ont été relativement abandonnés, la récupération s'est faite sur certains malentendus. Par exemple, un des plus curieux, c'est sûrement celui qui veut que les fêtes solsticiales soient des fêtes celtiques. On n'a aucune attestation dans les textes celtiques d'une importance quelconque donnée à la Saint-Jean. Tous les mouvements qui se rattachent au celtisme et au druidisme ont estimé que les fêtes importantes étaient les solstices. Par exemple, les druides ou les nouveaux druides qui, la nuit de la Saint-Jean, vont dans le bois de Vincennes ou ailleurs, couper du gui sur du chêne. Comme vous savez que le gui sur le chêne est très rare, généralement on achète du gui et puis tout habillé de blanc, un grand druide monte avec une échelle et laisse tomber du gui qui est recueilli en bas dans un drap. En Angleterre, par exemple, ça a pris des proportions très étranges à Stonehenge, puisque vous savez que les mégalithes de Stonehenge sont censés servir, disons, d'une sorte de vaste repère calendaire, c'est-à-dire que l'on a remarqué que derrière le principal porche formé par ces mégalithes, le soleil se lève au matin de la Saint-Jean. Alors à Stonehenge, maintenant, c'est des milliers de personnes qui se rendent. Il y a des haut-parleurs, il y a des hymnes celtiques ou autres, avec des qu'on peut appeler des adorateurs du soleil.
Et adorer le soleil aujourd'hui, donc dans notre société, est-ce que ça correspond à autre chose qu'adorer le soleil dans les temps anciens ?
Ah, c'est difficile à dire. Et j'ai l'impression aussi que cette nouvelle mythologie solaire se développe sur un fond qui est beaucoup plus, disons, populaire et savant à la fois, mais qui ne fait pas appel, en gros, au soleil, assez curieusement, qui est le fond de l'astrologie. Il faut tout de même faire une place, sinon aux sectes, disons, à des groupes qui ont toujours considéré qu'il fallait défendre en priorité le calendrier et l'inscription dans le temps. Je pense aux anthroposophes de Steiner. Steiner a toujours beaucoup insisté, les anthroposophes insistent toujours, beaucoup, sur un calendrier qui ne serait pas notre calendrier civil, qui s'est formé et s'est déformé, disons, dans les 20 dernières années surtout, pour des raisons qui ressortissent beaucoup plus, disons, de la rentabilité que pour des raisons de symbolisme solaire. Au contraire, alors un certain nombre de gens ont décidé que la chose était tellement importante qu'il fallait vivre selon son propre calendrier. Il y a sûrement les anthroposophes qui ont leur propre calendrier, qui, dans leur école, ont leur propre rite qu'ils font faire à leurs élèves et qui ont pour but de leur faire comprendre ce qu'est le temps. Il y a aussi l'impression d'avoir été dépossédé en une génération de toute une série de rites qui inscrivaient dans le temps, pour des raisons qui sont dues non seulement, disons, à l'Église, ce qui est certain, mais aussi au développement, par exemple, de la lumière artificielle. Je suis persuadé que les gens ont une sorte de nostalgie du temps où l'année se marquait tout de même par un moindre éclairement ou un plus grand éclairement. Et quand on voit les résistances qui se font, par exemple, à l'égard de certains projets qui consisteraient à créer pratiquement des villes souterraines. Je crois que ces résistances-là viennent aussi sûrement d'une angoisse à se trouver brusquement dans un temps qui, si vous voulez, serait un peu le temps qui a été expérimenté par les gens qui sont descendus dans les grottes, c'est-à-dire un temps que l'on est obligé de refaire soi-même. C'est peut-être surtout une réaction à l'angoisse vis-à-vis de la liberté qui nous est brusquement offerte de créer nos propres rythmes. Et ça ne va pas de soi. On préférerait qu'il y ait au moins encore un ou deux grands balanciers qui nous indiquent les grands rythmes. Je pense que parmi ces grands balanciers, il y a le soleil.
Haydn, tout petit extrait de ce quatuor qu'il appela du soleil. On ne sait pas pourquoi. Il nous a fallu beaucoup chercher, beaucoup questionner pour retrouver en France l'existence ou la résurgence de rites solaires authentiques. L'Alsace nous a donné une très belle réponse par l'intermédiaire d'une jeune femme, Michèle Bardoux, rencontrée par Simone Maury. L'Alsace, où beaucoup de villages continuent de célébrer les feux de carnaval, par exemple, c'est ce que l'on appelle le carnaval des paysans. Il a lieu chaque dimanche après le Mardi Gras. Et surtout, les feux de la Saint-Jean, vécus là comme nulle part ailleurs. Le récit de Michèle Bardoux.
La coutume a lieu le soir, à la nuit tombée. Les villageois allument un feu. Ils mettent dans le feu des rondelles de hêtre qui ont été faites au tour ou à la main, selon le cas. Des rondelles de hêtre qui ont en leur centre un petit trou dans lequel va se pointer l'extrémité d'une baguette. Dès que ce disque de feu devient incandescent, les villageois le retirent du feu, puis s'approchent de rampes de lancement qui sont des grandes pierres à pans inclinés. Ils font des moulinets de bras très très rapides, de grands moulinets de bras pour se donner un élan. Et puis ils frappent le disque de bois sur la pierre et le choc délivre le disque du bout de la baguette. Et le disque s'envole dans le ciel en se ranimant, c'est-à-dire le feu, la rondelle qui est incandescente, se rallume au contact de l'air et décrit alors une arabesque lumineuse dans le ciel. C'est une coutume qui est très très belle, très spectaculaire et qui remplit tous les villageois d'une grande joie.
Est-ce que cette coutume, on la retrouve beaucoup maintenant? Est-ce qu'on la reprend?
Non. Certains villages la reprennent actuellement. Mais il n'y a qu'un seul village de toute l'Alsace qui la pratique de façon permanente et traditionnelle depuis l'origine.
Avec les mêmes optiques, avec les mêmes regards dessus.
Oui. Les villageois sont encore très conscients du symbole solaire qui se rattache à ces disques. C'est tout à fait évident d'ailleurs. Hein. Un disque de feu qui tournoie dans le ciel, ça ne peut être que le disque solaire, n'est-ce pas? Le symbole est évident.
Alors, il y a d'autres fêtes peut-être plus nouvelles ou célébrées de façon différente aujourd'hui.
Oui, alors ça, c'est pour les feux de la Saint-Jean. Il y a effectivement un net regain d'intérêt pour les feux de la Saint-Jean. Naturellement, il y a toujours des feux authentiques qui se pratiquent encore dans certains villages en Alsace. Et ce sont ceux-là, d'ailleurs, les plus beaux, les plus spectaculaires, et ceux qui sont doublés de rites d'initiation pour jeunes gens. Mais à côté de ces feux traditionnels, on voit fleurir chaque année de nouveaux feux dans d'autres villages. Il y en a chaque année, il y en a davantage. Je pense que l'excitation qui anime les populations d'aujourd'hui lors de ces feux de la Saint-Jean est la même que celle d'autrefois.
Vous les appelez des nouveaux feux, c'est-à-dire qu'ils se pratiquent de façon différente que les anciens ?
Oui, il n'y a plus de rite d'initiation pour jeunes gens dans ces feux de la Saint-Jean. D'autre part, l'organisation se fait par la municipalité et non plus par la jeunesse masculine comme elle se faisait autrefois. Autrefois, n'est-ce pas, c'était les jeunes gens qui ramassaient le bois, faisaient le collectage du bois, la construction du bûcher, l'allumage du feu. Aujourd'hui, c'est la municipalité qui s'occupe de tout ça. Les villageois sont un petit peu en dehors, n'est-ce pas ? Mais ils participent de façon plus en tant que spectateurs qu'en tant que participants réels, peut-être. Alors ça, c'est la grande différence de ces nouveaux feux de la Saint-Jean. D'autre part, ces feux de la Saint-Jean s'agrémentent de feux d'artifice. Le terme le dit lui-même, c'est un feu artificiel qui se rajoute donc au feu naturel. C'est un petit peu dommage, ma conviction profonde, c'est qu'on n'aurait pas besoin de rajouter un feu d'artifice à un feu de la Saint-Jean, puisqu'il y a déjà un feu. Ce qui est nouveau aussi, c'est que les gens se déplacent sous forme de public, alors qu'autrefois, les feux de la Saint-Jean étaient réservés aux seuls villageois. C'était la fête du village, la fête des villageois. Actuellement, il y a des gens qui se déplacent de très loin, depuis la ville, pour aller jusqu'au fond des vallées, assister au spectacle du feu de la Saint-Jean. Le monde d'aujourd'hui est devenu beaucoup plus spectateur en toute chose, que ce soit dans les coutumes ou dans n'importe quelle autre forme d'expression, je crois.
Miraculeuse dissolution de toute tension harmonique que cette musique de Pierre Boulez, traduisant le poème de René Char, Le soleil des eaux. René Char imaginant la bienheureuse paresse d'un lézard au soleil. Si nous n'adorons plus le soleil, nous le questionnons beaucoup. Et les chercheurs, et de toute discipline, ont considérablement réduit l'immense part d'inconnu qu'il représente. Il commence à maîtriser ses pouvoirs, à inventer des techniques capables de libérer les quantités illimitées d'énergie que recèle le soleil et à les appliquer dans des domaines de plus en plus vastes et différenciés, à en faire surtout un providentiel matériau de substitution. Un phénomène qui n'est pas totalement nouveau, mais que nous appréhendons peut-être imparfaitement, c'est le rapport essentiel entre le soleil et les plantes. Les plantes qui sont parmi les premiers capteurs de l'énergie solaire. Et même si elles le sont dans faible quantité, elles apparaissent comme la source d'innombrables applications et entretiennent avec le soleil un dialogue permanent, à condition que le moins d'obstacles possible ne les en sépare. Suzanne Mériot, qui est responsable des recherches françaises sur la biomasse à l'INRA, a dit à Rutscheps de quelle nature était ce dialogue, avec ou sans nuages.
Il y a déjà dans le ciel la nébulosité, hein, les nuages font un écran à la diffusion des rayons solaires et ce qui fait que la partie du rayonnement qui arrive effectivement au niveau des feuilles n'est guère que de 45% de l'énergie solaire qui est incidente. Et puis ensuite, alors il y a d'autres barrages qui sont propres à la plante elle-même, qui sont propres au fait qu'il y a le phénomène de la photosynthèse qui utilise de l'énergie solaire, ce qui fait que, en fin de compte, le maximum de rendement possible par la photosynthèse n'est que de 5% de l'énergie incidente.
Alors la photosynthèse est un phénomène extrêmement complexe qu'on commence à mieux connaître. Comment peut-on le résumer ?
Oui, c'est un phénomène très complexe. Je crois que si on devait le résumer, on pourrait dire assez simplement que les feuilles, et en particulier les petits organites qui s'appellent les chloroplastes dans les feuilles, ont le pouvoir, en utilisant l'énergie lumineuse, de décomposer l'eau et ainsi de réduire le gaz carbonique pour former des hydrates de carbone.
Alors ces hydrates de carbone qui sont produits par le phénomène de la photosynthèse au sein des plantes, c'est ce qu'on appelle la biomasse.
Au sens strict, la biomasse, cela veut dire la masse des êtres vivants. C'est dans ce sens-là qu'on le prenait jusqu'à ce que l'on parle d'énergie. Et maintenant, implicitement, quand on parle biomasse, on pense biomasse végétale, c'est-à-dire la masse de toute la matière qui a été construite par les plantes à partir du phénomène de base de la photosynthèse. Et avec l'appui des éléments qui sont indispensables ensuite, la chaleur, l'eau, les éléments minéraux.
Alors cette biomasse qui est le produit de l'énergie solaire, elle nous intéresse aujourd'hui parce qu'à son tour, nous la voyons comme une source d'énergie.
Oui, bien sûr, puisque cette énergie solaire, elle a été emmagasinée dans les plantes sous forme d'énergie chimique. Et lorsque l'on va vouloir utiliser la biomasse pour produire de l'énergie, enfin telle qu'on la conçoit actuellement, on va transformer à nouveau cette énergie chimique, on va la reconvertir soit en énergie calorifique, soit en énergie mécanique, etc.
Alors quels sont à cet égard les meilleurs producteurs d'énergie ?
Alors, les meilleurs producteurs d'énergie, en toute objectivité, devraient être les plantes aquatiques. Parce que je vous ai dit qu'il y avait des limitations. Après le phénomène de la photosynthèse, il y a des limitations à la fabrication de la biomasse par la contrainte liée à l'eau. C'est une contrainte essentielle. Et les plantes aquatiques ne subissent pas cette contrainte puisqu'elles ont de l'eau à leur disposition. Elles sont, elles, capables d'atteindre les rendements maximum dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des rendements qui s'approchent de 5 à 6%. Mais ce sont les seules plantes. Alors, pour revenir à la biomasse terrestre, qui est quand même celle que nous connaissons le mieux, il y a là également toute une gamme de plantes. Et parmi les plus performantes, on en parle beaucoup maintenant, il y a une espèce qui s'appelle la canne de Provence, qui est une plante qui est utilisée d'ailleurs expérimentalement pour l'énergie actuellement et qui produit 30 tonnes de matière sèche. Alors 30 tonnes de matière sèche pour des rendements de type agricole, c'est très très important. Et par contre, il y a d'autres plantes qui sont beaucoup moins productives, des espèces sauvages en général qui produisent quelques tonnes de matière sèche parce que justement elles ont des facteurs limitants qui sont l'eau, qui sont les éléments minéraux et la biomasse cultivée a une production qui s'échelonne selon les espèces entre 6 et 18 tonnes de matière sèche. 18 tonnes est un très bon rendement.
Est-ce qu'en France, on cultive beaucoup de plantes en vue justement de produire de l'énergie?
Pas encore, et nulle part d'ailleurs dans le monde vraiment, parce que quand on a parlé énergie de la biomasse, on a d'abord pensé, c'était raisonnable, l'utilisation des sous-produits et des déchets, puisque la première finalité de la biomasse, c'est quand même de fournir des aliments, et accessoirement, enfin non pas accessoirement, mais secondairement, des matériaux pour l'industrie, des fibres et des fibres pour la construction et l'habillement. Il était donc logique de penser dans un premier temps à utiliser des sous-produits pour faire de l'énergie. Et comme ces sous-produits sont en quantité limitée, on sait que pour la France, on a 23 millions de tonnes d'équivalent pétrole de ressources totales en sous-produits déchets, mais qu'on ne pourra jamais en utiliser qu'une dizaine de millions parce qu'il y a des problèmes d'accessibilité de cette biomasse en sous-produits et également le problème que ces sous-produits constituent un entretien du taux humide des sols puisqu'ils reviennent en général toujours au sol. Donc avec ces 10 millions de tonnes d'équivalent pétrole de ressources en sous-produits, on est obligatoirement limité. Il faut faire appel à une biomasse nouvelle qui est spécialement conduite dans ce but-là, c'est ce qu'on appelle les cultures énergétiques. Alors c'est quelque chose qui débute et nous avons eu la chance, si vous voulez, de disposer de la canne de Provence dont je vous parlais tout à l'heure, parce qu'elle a été préparée pour des fins de papetière, hein, pour des fins industrielles, qui n'ont pas finalement été suivies. Donc cette canne de Provence avec ses hauts rendements s'est trouvée disponible et c'est la première culture expérimentale dont nous disposons. C'est d'ailleurs, je crois, assez peu fréquent dans le monde. À côté de la canne de Provence, on s'oriente, et les pays étrangers aussi avec nous, vers ce qu'on appelle la sylviculture énergétique, c'est-à-dire on fait pousser des arbres pour produire de l'énergie. Alors c'est un petit peu différent de la sylviculture traditionnelle, en sens que comme on ne cherche pas à avoir du bois d'œuvre, on essaie de faire pousser les arbres le plus rapidement possible pour les exploiter le plus souvent possible. Et on pense que les rendements qu'on peut atteindre de cette façon-là, en France, de façon réaliste, ne dépasseraient quand même pas 12 tonnes de matière sèche par an, ce qui est nettement moins performant que la canne de Provence. Et on s'oriente aussi éventuellement vers d'autres espèces. Par exemple, on pense utiliser éventuellement la jacinthe d'eau. Mais alors la jacinthe d'eau, qui est une plante aquatique, elle serait utilisée, comme elle a des besoins en chaleur et des besoins en éléments minéraux qui sont très élevés, et on l'utiliserait pour valoriser les calories perdues dans les centrales électrogènes. Donc elle serait cultivée dans des bassins d'eau chaude dans lesquels éventuellement on ferait arriver des eaux d'égout. Ce qui aurait en même temps, si vous voulez, un rôle dépolluant parallèlement à la fonction production d'énergie.
Chacun le sait, un commissariat à l'énergie solaire, c'est le COMES, où le soleil est la préoccupation majeure, la source d'inspiration inépuisable de chercheurs très savants. Mais c'est là aussi qu'aboutissent des projets, des inventions même, peut-on dire, des plus raisonnables aux plus ambitieuses, des plus réalisables aux plus extravagantes. Dominique Rousset a demandé à son président, Henri Durand, de lui en citer quelques-uns et de lui expliquer surtout le sort que l'on réservait à ces projets.
L'énergie solaire a toujours excité beaucoup l'imagination des hommes, et en particulier des chercheurs. Tout le monde cite Archimède, qui, selon la légende, avait réussi à incendier la flotte ennemie en braquant de nombreux miroirs sur les bateaux en bois et en les enflammant. Alors depuis lors, et tout au cours des siècles, on a eu quantité de savants qui ont essayé de domestiquer cette énergie solaire. On peut citer, par exemple, Lavoisier, à la fin du 18e siècle, qui, avec des lentilles, arrivait à faire fondre le platine. Mais enfin, c'est depuis quelques années, surtout depuis la crise de l'énergie, que l'on voit effectivement des projets très ambitieux, parfois un petit peu irréalistes ou parfois lointains, voir le jour. Il y a par exemple des projets qui sont déjà bien étudiés sur le papier, de construction d'immenses satellites. Des satellites qui auraient plusieurs dizaines de kilomètres carrés de surface, qui se promèneraient donc au-dessus de nos têtes dans l'espace et qui recevraient l'énergie solaire sans aucun nuage et qui pourraient donc marcher 24 heures sur 24 et fabriquer l'électricité là-haut à 36 000 km. De là, il s'agit de nous envoyer ensuite cette énergie électrique, ce qui n'est pas simple. Mais enfin, là aussi, l'imagination des chercheurs est très grande et en particulier, on envisage de nous transmettre cette énergie depuis le satellite jusqu'à une station à terre sous forme de rayons laser, par exemple. Vous voyez que les scientifiques ne reculent devant aucune anticipation. Je vais vous donner un autre exemple qui est peut-être plus instructif et qui vous montrera la grande variété des applications de l'énergie solaire. Bah, chacun sait que les plantes se constituent et vivent grâce à la synthèse qu'elles font, dans les feuilles en particulier, du gaz carbonique de l'air et de l'eau qu'elles reçoivent par leurs racines. Et c'est comme ça que se fabrique notre alimentation, que se fabriquent les arbres et les forêts. Eh bien, les chercheurs ont examiné de près comment cette fixation de la vapeur d'eau et du gaz carbonique se faisait dans les plantes, et ont trouvé qu'elle se fait grâce à la lumière, c'est ce qu'on appelle la photosynthèse de la chlorophylle. Mais en regardant de plus près, on s'est aperçu que dans les différentes réactions chimiques qui rentrent en jeu, il y en a une qui passe par le stade de la fabrication d'hydrogène. Alors dès qu'on dit hydrogène, on pense tout de suite à un nouveau vecteur d'énergie. Et des équipes de chercheurs très sérieux, il y en a plusieurs qui travaillent sur ce domaine en France, mais aussi à l'étranger, essayent d'imiter la nature, c'est-à-dire d'essayer de répéter en laboratoire les réactions qui se produisent dans la photosynthèse des plantes, mais en arrêtant, si possible, cette chaîne de réaction à la fabrication d'hydrogène. Et espèrent que peut-être dans 20 ou 30 ans, enfin disons au 21e siècle pour ne pas être trop précis, nous aurons des systèmes qui ressembleront à la nature et qui permettront de piéger l'énergie solaire et la transformer directement en hydrogène, c'est-à-dire directement en un combustible ou même un élément capable de faire fonctionner des moteurs et pourquoi pas nos voitures. Vous voyez là, de projets qui n'ont rien de farfelu, qui sont des projets sérieux, mais des projets à très long terme. Il y a tout de même, pour les 10 prochaines années, un certain nombre de projets plus sérieux, qui sont encore au stade de la recherche, mais pour lesquels nous avons des espoirs, on dirait, positifs et affirmés. Par exemple, la transformation directe d'énergie solaire en électricité est déjà une réalité. Il y a déjà une petite industrie qui fabrique des fameuses photopiles, les photopiles qui transforment chaque grain de soleil en un courant électrique. Eh bien, du coup, des recherches ont lieu dans ce domaine qui permettront, alors dans un avenir plus proche, probablement avant 10 ans, de résoudre un problème qui est extrêmement important pour l'humanité, celui de la fourniture d'énergie très décentralisée dans les sites isolés et déshérités, je pense surtout aux pays en voie de développement, qui manquent très cruellement d'énergie pour leurs besoins vitaux comme le pompage de l'eau pour les usages domestiques ou pour l'alimentation du bétail, les communications comme des radiotéléphones avec l'extérieur, peut-être même la télévision, un minimum d'éclairage, bref, tous ces petits besoins en énergie que, à l'heure actuelle, 2 milliards d'individus ignorent, car il faut bien voir que dans le tiers-monde, en dehors des centres urbains, il n'y a pas d'électricité. Eh bien, ces photopiles, nous pensons que les progrès de la technique permettront de les rendre suffisamment bon marché avant 10 ans pour qu'on voit proliférer dans le moindre village d'Amérique du Sud ou d'Afrique un petit générateur qui ne fera aucun mouvement, qui ne fera aucun bruit et qui fabriquera la petite quantité d'électricité qu'il faut pour satisfaire à ses besoins vitaux des villageois. Voilà quelque chose qui est beaucoup plus réel et beaucoup plus important et où l'énergie solaire peut apporter effectivement à une très grande partie de l'humanité un outil de développement économique incomparable.
Illustration directe de ces propos, un lycée solaire. Un lycée solaire actuellement en cours de construction à Ambérieu dans l'Ain et qui devrait être inauguré en septembre 82. C'est un ensemble polyvalent occupant près de 14 000 m2 comprenant un lycée d'enseignement général et un lab tertiaire prévu pour accueillir 1408 élèves. Il s'agit d'une première européenne, vraisemblablement d'une première mondiale, dont la conception revient à l'atelier de recherche et de réalisation architecturale de Grenoble, en collaboration avec le bureau d'études Final Engineering de Lyon, spécialisé dans les questions thermiques. Un des responsables du projet, René Dulot, qui est secrétaire général du district de l'Ain, lequel a financé l'opération, présente à Dominique Rousset la maquette de ce lycée.
Quand on jette un œil sur la maquette, sur les plans, on distingue essentiellement des structures basses où effectivement l'aspect thermique est essentiellement lié à l'aspect aux particularités architecturales. Je veux dire que l'originalité du projet, c'est que pour la première fois, et une des faiblesses du solaire, c'était de ne pas pouvoir stocker le chauffage, d'utiliser immédiatement. L'originalité du projet, c'est essentiellement d'avoir réussi à stocker par l'intermédiaire de cuves qui sont à la fois l'unité thermique, mais aussi tout à fait structurante sur le plan de l'architecture. Donc je crois que l'architecture et l'aspect thermique sont intimement liés et que le mode de chauffage retentit tout à fait sur l'architecture dans un système de construction basse. On a en réalité quatre bâtiments qui se présentent un petit peu en carré avec une place centrale. Et l'ensemble de ces bâtiments sont reliés par un système de canalisation qui permettront un chauffage sur l'ensemble des classes.
La lumière doit être omniprésente. Et comment ça se passe-t-il en été lorsqu'au contraire la chaleur est importante ?
Premièrement, il y a des fenêtres, de nombreuses fenêtres, et des fenêtres ouvertes, c'est toujours une source de rafraîchissement. Je dirais que la particularité vitrage, qui est effectivement importante dans ce projet, est surtout utilisée en hiver, et qu'en particulier les serres qui sont nombreuses ont une fonction thermique qui n'est pas négligeable. Je crois qu'il faut un petit peu rentrer dans le détail du système de chauffage, en indiquant qu'on a d'abord un système de base. Le système de base, c'est un chauffage qui vise à maintenir toujours une température de 12 degrés minimum, plancher, pour conserver une certaine souplesse. Si on avait imaginé 15 à 16 degrés, comme on avait pensé au départ, on aurait en réalité un manque de souplesse, et en particulier durant la nuit, il est intéressant de pouvoir éviter le gaspillage. Et ce système de base, est conforté par un système d'appoint à différents étages. D'abord un système double flux qui consiste à l'extraction de l'air vicié des salles. Tout cet air chaud sera récupéré sur des échangeurs qui comporteront des tubulures à l'intérieur desquelles circulera l'air vicié ou l'air chauffé des serres, et à l'extérieur desquelles circulera un air froid qui lui se trouvera donc réchauffé et sera récupéré et réinjecté à l'intérieur des salles. Un autre apport, c'est également des batteries solaires, des batteries OR, l'eau venant directement des cuves et réchauffant l'air, qui est l'air pulsé, qui sera envoyé à l'intérieur des classes. Le troisième niveau le troisième étage de la fusée d'appoint, sera constitué par une série de batteries au gaz, des batteries OR, l'eau étant tout simplement chauffée dans une chaudière au gaz. L'objectif de performance pour ce qui concerne la consommation énergétique totale, annoncé par notre équipe de concepteurs, se répartit de la manière suivante: solaire 53%, gaz 27%, électricité 20%. Et ce lycée est centré à l'intérieur d'une prairie. Et si vous aviez la maquette sous les yeux, vous verriez beaucoup, beaucoup de vert et beaucoup également de couleurs sombres qui représentent les capteurs, qui représentent les façades qui seront choisies volontairement de couleurs un peu sombres. Le vert et le sombre, le mariage est assez heureux.
Est-ce que ce projet a été difficile à mettre sur pied, René Dulot ?
Difficile en matière d'acceptation de la part de ceux qui l'ont choisi ? Oui et non. Oui, en ce sens que les élus du district de la Plaine de l'Ain ont tout de même réfléchi avant de franchir ce pas. Non, en ce sens qu'ils ont eu le courage devant un projet qui est un projet tout à fait fiable. Je voudrais rappeler que nous sommes dans une région, enfin plus qu'une région, dans un secteur qui a le privilège d'avoir sur son territoire la centrale nucléaire de Bugey, la plus vaste centrale en fonctionnement de France et même d'Europe. Le choix donc du lycée solaire s'est imposé comme, je dirais presque comme un réflexe civique. Je pense qu'il ne s'agit pas d'un prototype. Je veux dire que le caractère fiable des performances qui ont été annoncé, le caractère fiable des techniques qui sont mises en œuvre, les caractères également, le caractère économique de ce lycée qui se rapproche tout à fait par son coût d'un lycée classique, par son coût d'investissement. Pour ce qui est du fonctionnement, il sera évidemment inférieur, mais pour ce qui est de l'investissement, c'est un coût comparable. Tous ces éléments font que ce lycée, plutôt que d'être un prototype, quelque chose comme une expérience, risque bien, à mon sens, d'être le premier d'une série dont on peut souhaiter qu'elle soit longue.
À qui devrons-nous les plus belles représentations du soleil ? Aux poètes, aux savants, aux musiciens, à l'enfant et aux peintres ? Oui, les peintres, quelle réponse leur regard nous aura-t-il donné dans l'histoire et aujourd'hui ? Georges Boudaille, critique d'art.
Le soleil a une importance capitale puisque la peinture, c'est la couleur est lumière avant tout. Et j'aurais tendance à dire tout de suite, le plus beau soleil que j'ai connu en peinture, ce sont ceux de Van Gogh. Ceci dit, le soleil et sa transcription posent des problèmes. Les toiles les plus colorées ne sont pas forcément celles qui donnent une idée juste du soleil et de la lumière, et n'ont pas été forcément peintes au soleil. Je pense qu'au contraire, c'est le contraire. Dès que vous m'avez posé cette question, je pensais à l'influence qu'ont eu sur des peintres contemporains ou modernes, comme Paul Klee ou Matisse, des voyages au Maroc, notamment. Ou, pour la génération précédente, des voyages en Égypte, pour tous ces orientalistes du milieu du XIXe siècle. Ils sont revenus en peignant le sable encore plus pâle qu'il n'est. Je crois que l'expression qu'emploient les peintres, c'est « le soleil mange les couleurs ». Il les mange de deux façons, bien entendu. Comme vous savez, quand le soleil rentre dans les appartements, il mange les couleurs, et les peintures murales se décolorent. Mais le soleil, réellement, décolore. Et les peintres, les plénéristes en général, il y en a eu dans tous les pays, il y en a eu en Hongrie, il y en a eu en Russie, et nous avons eu en France les impressionnistes, tous ceux qui plantent leur chevalet en plein air et au soleil, ont cette tendance à peindre très pâle. Prenez les grands Monet, les Monet sont pâles. Je parlais tout à l'heure du cas de Matisse et de Klee. Les aquarelles de Klee ou de Matisse faites au Maroc sont excessivement pâles. C'est après, revenu dans l'atelier, quand Matisse reprend son travail, qu'il rend toute leur splendeur aux couleurs, au rouge, au vert. Et de fait, les grandes couleurs, vous-même, à l'observation, quand vous êtes dans un plein soleil vraiment lumineux dans un pays méditerranéen, c'est bien que tout apparaît très pâle, et que les feuillages des arbres prennent cette espèce de teinte gris poudreux, et non pas ce vert éclatant qu'on attribue théoriquement au cyprès, par exemple. Et le soleil, vous avez une propriété, c'est qu'il se déplace sans arrêt. Et c'est ce qu'ont bien montré les impressionnistes, entre le soleil levant, impression, soleil couchant, et le plein midi, il y a toute la gamme des éclairages. Et il y en a d'autres encore, parce que parmi les soleils remarquables, je pense à ceux de Turner. Et Turner est aussi un homme qui a beaucoup voyagé dans des pays orientaux, et puis qui a réinsufflé la couleur a posteriori dans ses compositions et dans ses paysages. C'était probablement des soleils violents, puisqu'il peint le soleil de face, qui est assez rare. Dans le fond, en peinture, le soleil, on ne le voit jamais, en général. Mais tout est peigné dans la lumière du soleil. Les peintres, je pense, qui ont représenté le soleil, sont l'exception. C'est pour ça que je dis tout de suite Van Gogh et je dis Turner. Sinon, le soleil, on ne le voit pas, puisqu'il éblouit tout. Et pour finir, l'œil du peintre est comme l'objectif du photographe. Vous avez un cliché voilé si vous prenez le soleil en pleine face, ou alors vous ne voyez que le soleil et tout le reste disparaît dans l'ombre.
Le soleil a-t-il une même importance dans la peinture moderne qu'il n'avait dans la peinture impressionniste ?
Je pense qu'il a une moins grande importance. La lumière a une importance. La peinture moderne, la plus actuelle, si vous voulez, n'est pas représentative. Donc le soleil n'a pas d'importance puisqu'il ne baigne pas les objets, qu'il s'agit de regarder tant d'une peinture abstraite ou d'une peinture conceptuelle. C'est une peinture qui fait allusion à d'autres notions que la représentation du monde. Donc, évidemment, tout le monde baigne dans une lumière, et cette lumière est celle du soleil, nous le savons. Mais le soleil n'est ni représenté et ne sert pratiquement à rien. Quant aux, disons, aux nouveaux courants, aux artistes qui appartiennent aux nouveaux courants figuratifs, il semble que pour eux, le soleil n'est pas une importance capitale, étant donné qu'il s'agit, là encore, en ce qui concerne les meilleurs d'entre eux, d'une peinture qui est pensée avant d'être vue. Le soleil a joué un rôle important dans l'art, mais d'abord, c'était peut-être un art qui était sacré, c'est-à-dire un art religieux. Mais nous savons très bien que, dans beaucoup d'arts primitifs, dans l'art mésopotamien, dans l'art égyptien, et dans l'art oriental, le soleil est représenté, mais il est représenté symboliquement, soit comme un dieu, soit comme une puissance bénéfique. Il ne vient pas à l'esprit, parmi des jeunes artistes actuels, qu'il y ait une représentation systématique du soleil, ou alors sous des formes très très abstraites.
Peinture au soleil, orange, violet, rouge, jaune, bleu, marine, orange.
Et si tu as des ailes et que tu vas trop près du soleil, qu'est-ce qui se passe?
Et ben, il me brûle parce que c'est du feu le soleil.
Nouvelle célébration, nouvelle allégeance au soleil, c'était le thème du magazine des nouveautés de ce jeudi, avec la participation de Dominique Rousset, François Charpentier et Simone Maury, qui avaient recueilli les témoignages d'Henri Durand, président de la COMES, de la Commission à l'énergie solaire, de René Dulot, responsable du district de l'Ain et de ce lycée solaire de Combarieux, François Charpentier, qui avait interrogé Georges Boudaille, le critique d'art, et rencontré les enfants d'une école maternelle parisienne, enfin Simone Maury, qui avait rencontré Claude Gagnebet et Michel Bartout.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 7 mai 1981.